France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Venez, chère grande dame, on vous appelle, on vous attend. Lorsque Paul Verlaine, dans sa lettre de la fin de l'été 1871, écrivit au tout jeune Arthur Rimbaud de venir le rejoindre, il ne pouvait se douter que cette missive marquerait le commencement d'une passion exaltée, exaltante, misérable et splendide, qui unit les deux hommes pendant deux années. En 1951, Francis Carco en retraçait les grandes étapes dans une série de 8 émissions diffusées sur la chaîne nationale. Après avoir, dans les 3 premiers volets, présenté l'enfant des Ardennes et raconté la rencontre des deux poètes à Paris, il faisait, dans les 3 épisodes suivants, le récit de leur saison en enfer, à Bruxelles d'abord, où ils arrivèrent à l'été 1872, puis à Londres et de nouveau en Belgique, où Verlaine, le 10 juillet 1873, tira sur Rimbaud les 2 fameux coups de revolver qui devaient le conduire en prison.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carco de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Moran et Jean Topard prêtent leur concours à cette 4e émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
De foire de Saint-Gilles à Bruxelles. Arthur et Paul ont passé la frontière sans encombre. Tout va bien. Les manèges tournent, le bruit des carabines crépite dans les baraques de tir. Verlaine est un peu saoul.
Tournez, tournez, bons chevaux de bois, tournez 100 tours, tournez 1000 tours, tournez souvent et tournez toujours, tournez, tournez au son des hautbois. Le gros soldat, la plus grosse bonne, sont sur vos dos comme dans leur chambre. Car en ce jour, au bois de la Cambre, les maîtres sont tous deux en personne. Tournez, tournez, chevaux de leur cœur, tandis qu'autour de tous vos tournois clignote l'œil du filou sournois. Tournez au son du piston vainqueur. C'est ravissant comme ça vous saoule d'aller ainsi dans ce cirque bête, bien dans le ventre et mal dans la tête, du mal en masse et du bien en foule. Tournez, tournez, sans qu'il soit besoin d'user jamais de nuls éperons pour commander à vos galorons. Tournez, tournez sans espoir de foin et dépêchez, chevaux de leur âme. Déjà voici que la nuit qui tombe va réunir pigeons et colombes, loin de la foire et loin de madame. Tournez, tournez, le ciel en velours d'astres en or se veille lentement. Voici partir l'amante et l'amant. Tournez au son joyeux des tambours.
Décidément, l'équipée se poursuit dans de bonnes conditions. Les voyageurs visitent Bruxelles. Je veux dire qu'ils n'en négligent, qu'ils n'en dédaignent pas un bouchon, pas un estaminet. Verlaine est en pleine euphorie. Entre autres blâmables excès, je crois que nous bûmes le tout. Depuis les plus grands vins français, jusqu'à ce Faro, jusqu'au Stout, en passant par les eaux de vie qu'on cite comme redoutables, l'âme au 7e ciel ravie, le corps plus humble, sous les tables. Cependant, une tentative de réconciliation machinée par Madame Mottet de Fleurville à Bruxelles, où ces dames eurent une entrevue avec Verlaine, faillit presque réussir. Paul passa l'après-midi avec Mathilde dans une chambre à l'hôtel. Il n'a pas oublié. Il n'oubliera jamais.
Je vous vois encore. J'entrouvris la porte. Vous étiez au lit comme fatigué. Mais, ô corps léger que l'amour emporte, vous bondîtes nu et pleurez et gai. Oh, quels baisers, quels enlacements fous! J'en riais moi-même à travers mes pleurs. Certes, ces instants seront entre tous mes plus tristes, mais aussi mes meilleurs.
Mathilde non plus n'oubliera pas, car à la fin de la journée, Verlaine, au changement de train à la gare frontière de Quiévrain, entre, s'attarde à la buvette et s'enivre. Il devait même adresser à la malheureuse femme ces lignes qu'il aurait pu se dispenser d'écrire. Misérable fée carotte, princesse souris, punaise qu'attendent les deux doigts et le pot. Vous avez peut-être tué le cœur de mon ami. Je rejoins Rimbaud s'il veut encore de moi. Rimbaud restait donc le plus fort. Et il le savait. La présence de Mathilde à Bruxelles ne l'avait nullement inquiété. Toutefois, il jugea plus prudent de ne pas s'exposer au risque d'une nouvelle démarche. Et le 7 septembre, il s'embarquait à Ostende avec le vieux pour Douvres. Deux bientôt s'installent à Londres, dont Mallarmé, qu'il connaissait, avait célébré la magie dans ce poème en prose, La pipe.
Mon tabac sentait une chambre sombre, aux meubles de cuir saupoudrés par la poussière du charbon, sur lesquels se roulait le maigre chat noir. Les grands feux, et la bonne aux bras rouges versant les charbons, et le bruit de ces charbons tombant du seau de tôle dans la corbeille de fer, le matin, alors que le facteur frappait le double coup solennel qui me faisait vivre. J'ai revu par les fenêtres ces arbres malades du square désert. J'ai vu le large, si souvent traversé cet hiver-là, grelottant sur le pont du steamer mouillé de bruine et noirci de fumée, avec ma pauvre bien-aimée errante, en habit de voyageuse, une longue robe terne couleur de la poussière des routes, qui collait humide à ses épaules froides, un de ces chapeaux de paille sans plumes et presque sans ruban, que les riches dames jettent en arrivant tant ils sont déchiquetés par l'air de la mer, et que les pauvres bien-aimés regarnissent pour bien des saisons encore. Autour de son cou s'enroulait le terrible mouchoir qu'on agite en se disant adieu pour toujours.
Pas question pour Arthur, ni pour son compagnon, de sensations de cet ordre. Londres, c'est le gin, l'alcool, une vie de débauche, de désordre, d'oisiveté, d'ivrognerie. Tous deux louent une chambre, numéro 34-35, à Holland Street, et la même existence qu'ils menaient à Paris recommence. Les fonds sont bas. Paul tape sa mère, qui va d'ailleurs passer quelque temps avec lui, durant une absence de Rimbaud. Rimbaud revient, repart pour Charleville, refait le voyage une nouvelle fois, quitte Londres. Verlaine alors va séjourner chez une tante, Madame Évrard, à Géonville dans le Luxembourg belge, puis le 25 mai 73, il reprend avec Arthur le bateau à Anvers et donne pour subsister des leçons de français. Des proscrits de la commune, Vermerche, Andrieux, Régamé, Barère, forment le cercle de ses relations. Comme à son habitude, Rimbaud ne fait rien et se rend odieux à tous. Mais on l'admire d'avoir écrit ce poème prodigieux.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes et les ressacs et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareil à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthères à peau d'homme, des arcs-en-ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés des punaises choient des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois martyrs lassés des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ces fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir à reculons. Or, moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, planche folle escortée des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique, les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues, le rut des behemoths et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues. Je regrette l'Europe aux anciens parapets. Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate! Oh, que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, ouvert le crépuscule embaumé. Un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigner de vos langueurs, ô l'âme, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
N'aurait-il été que l'auteur du bateau ivre, Rimbaud serait assuré de durer. Mais ne nous hâtons pas de lui assigner une place, même de premier plan. C'est aussi bien en prose qu'en vers qu'il y a droit. Ce poème vagabond qu'il écrivit en souvenir de son séjour à Londres avec Verlaine le prouve. Pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus. Je ne me saisissais pas fervemment de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarre, et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre. Je créais par-delà la campagne, traversée par des bandes de musique rares, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse, et presque chaque nuit, aussitôt endormi, le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés, tel qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant sans songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil, et nous errions nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route. Moi, pressé de trouver le lieu et la formule. Après s'être comporté envers sa femme avec une goujaderie sans excuse, il n'admettait pas que Mathilde ait introduit une nouvelle demande en séparation. Et il pleure. Il accuse Rimbaud d'être l'instrument de ses malheurs. Hugo, qu'il avait supplié d'intervenir auprès de Mathilde, en affirmant contre toute évidence que c'était lui le quitté, répondit : Mon pauvre poète, je verrai votre charmante femme et lui parlerai en votre faveur, au nom de votre doux petit garçon. Courage, et revenez au vrai. Trop tard, le couple était alors logé vers Marylebone, dans une maison de style Adams, aux fenêtres hautes ornementées d'une façon un peu arabisante, d'où l'on apercevait sur la Tamise un quai d'embarquement. Et la route était longue de ce quartier jusqu'à London Bridge. Il fallait traverser le Soho, Leicester Square, le Strand et la Cité où les tentations étaient nombreuses, dans les bars pleins d'air de gigue rythmé par quelques beurres et l'organe, tandis qu'il pleuvait sur la ville. Arthur avait au moins faim de comprendre les remords qu'éprouvait Verlaine pour avoir abandonné sa femme et son enfant. Mais non. La vérité brutale était que Rimbaud ressentait un plaisir sadique à voir le mal qu'il avait fait. Toutefois, malgré les griefs de Verlaine, Rimbaud le consolait à sa manière de ses ennuis conjugaux. Parfois, il parle en une façon de patois attendri, dit-il de lui dans une saison en enfer. De la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires, il avait la pitié d'une mère méchante pour les petits-enfants. Bien plus, il admettait que Paul ne pensa qu'à Mathilde. En effet, romans sans paroles furent écrites durant cette période. Tout autre qu'Arthur ne l'eût sans doute pas toléré.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, et que je dorme un peu, puisque vous reposez.
De son côté, Rimbaud lui redisait sans cesse. Comme ça te paraîtra drôle quand je n'y serai plus, ce par quoi tu as passé. Quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sur tes yeux, parce qu'il faudra que je m'en aille très loin un jour. Puis il faut que j'en aide d'autres, c'est mon devoir. Quoi que ce ne soit guère ragoûtant, chère âme. Ou bien Paul, tout à coup, saisit d'effroi devant Arthur qui s'était assoupi, perdait tout contrôle sur lui-même.
Ce soir, je m'étais penché sur ton sommeil. Tout ton corps dormait chaste sur l'humble lit. Et j'ai vu comme un qui s'applique et qui lit. Ah, j'ai vu que tout est vain sous le soleil. Convive, oh, quelle délicate merveille. Tant notre appareil est une fleur qui plie. Oh, pensée aboutissante à la folie. Va, pauvre, dors. Moi, l'effroi pour toi m'éveille. Ah, misère de t'aimer, mon frêle amour, qui va respirant comme on expire un jour. Oh, regard fermé que la mort fera-t-elle. Oh, bouche qui rit en songe sur ma bouche, en attendant l'autre rire plus farouche. Vite, éveille-toi. Dis, l'âme est immortelle.
À côté de son cher corps endormi, reprend Rimbaud, que d'heures de nuit j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Et il parle de ces paradis de tristesse que les ivrognes et les intoxiqués découvrent habituellement autour d'eux les lendemains d'excès. Paradis ? Non. Rimbaud ne s'y est pas trompé quand il intitula son récit de ses aventures avec Verlaine « Une saison en enfer ». Bien plus, ajoute-t-il, j'inventais la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U bleu, O vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Vous connaissez le sonnet des voyelles.
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Voyelle, je dirai quelques jours vos naissances latentes. A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson d'ombelles. I, pourpre, sang craché, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle. Vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides que l'alchimie imprime au grand front studieux. Ô, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. Ô, l'oméga, rayon violet de ses yeux.
Disons tout de suite qu'à l'époque où ces vers furent écrits, Verlaine n'y comprit rien. Et qu'il n'en convainc que plus tard, après la fin de sa sombre aventure avec Rimbaud. Il aurait pu ne pas vendre la mèche. Que voulez-vous, crut-il bon de se confier à Pierre-Louise qui lui avait rendu visite à l'hôpital ? A noir ou blanc ? Rimbaud s'en foutait pas mal. Il assouvissait là, sans doute, une ancienne rancune qui remontait au temps de la rue Monsieur le Prince. À Londres, d'autres motifs d'en vouloir à son compagnon n'avaient fait que l'exaspérer davantage. En effet, lorsque la dèche, comme il dit, devenait pire, Paul se rendait aux commissions. Le matin même de leur rupture, Il rapportait précisément un hareng et une bouteille d'huile. Arthur fumait la pipe. Il regarda flegmatiquement Paul refermer la porte derrière lui et, sans ébaucher le geste de l'aider à se débarrasser, constata. Bobonne, ce que tu peux tout de même avoir l'air con avec ton poisson et ton litre. C'était le genre de ses plaisanteries. Et vraisemblablement, Verlaine ne s'en serait pas formalisé si depuis quelque temps déjà, la menace du procès en séparation que lui intentait sa femme ne l'avait rendu nerveux, susceptible, irritable. L'idée que Mathilde pouvait obtenir le divorce l'angoissait. Rimbe le savait. Il voyait bien que Paul avait des pires soucis. Et pour le réconforter, il ne trouvait que cette apostrophe grossière. « Ah, vraiment, j'ai cet air !» C'était soudain crié Paul. « Eh bien, nous allons voir comment tu te tireras d'affaire sans moi. » Et laissant Rimbaud sans un sou, il avait aussitôt bondi hors de la chambre, s'était précipité vers l'escalier pour arriver bientôt, essoufflé dans la rue, et gagné à toutes jambes le quai, d'où partait précisément à cet instant le bateau pour Anvers. La scène avait eu lieu le jeudi 3 juillet 1873. Le 4, Paul était à Bruxelles. Une lettre rédigée en mer devait renseigner Arthur sur ses intentions. « Mon ami, je ne sais si tu te seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Je tiens pourtant à te dire que tu dois au fond comprendre qu'il me fallait absolument partir, que cette vie violente, toute de scène, sans motif, que ta fantaisie, ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement comme je t'aimais immensément, on y soit qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici 3 jours je ne suis pas avec ma femme, dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. 3 jours d'hôtel, un rivolvita, ça coûte cher. De là ma pingrerie de tantôt, tu devrais me pardonner. » La réaction d'Arthur fut immédiate. « Londres, vendredi après-midi, 4 juillet. Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serais bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens. Sois courageux, cher ami, rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie. C'est ton bien, d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion. L'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne revenais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour en arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te retrouver où tu es? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Cependant, au reçu de la lettre de Paul, Arthur se ressaisit, le ton change. Ta femme ne viendra pas, lui répond-il par courrier. Ou elle viendra dans 3 mois, dans 3 ans, que sais-je. Quand t'as claqué, je te connais. Tu vas donc, en attendant ta femme et ta mort, te démener, errer, ennuyer les gens. Quoi? Tu n'as pas reconnu que les colères étaient aussi fausses d'un côté que de l'autre? Mais c'est toi qui as les derniers torts. Puisque même après que je t'ai rappelé, tu as persisté dans tes faux sentiments. Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi? Réfléchis. Ah, certes non. Avec moi seul, tu peux être libre. Et puisque je te jure d'être très gentil à l'avenir, que je déplore toute ma part de tort, que j'ai enfin l'esprit net et que je t'aime bien, si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne, tu fais un crime et tu t'en repentiras. De longues années par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tous ceux que tu as éprouvés. Après ça, ressonge à ce que tu étais avant de me connaître. La lettre contient également ce passage. Quant à moi, je ne rentre pas chez ma mère. Je vais à Paris. Je tâcherai d'être parti lundi soir. Tu m'auras forcé à vendre tous tes habits. Je ne puis faire autrement. Ils ne sont pas encore vendus. Ce n'est que lundi matin qu'on les emporterait. Si tu veux m'adresser des lettres à Paris, envoie un forain. 289 rue Saint-Jacques. Le 8 juillet de Bruxelles, 8h38 du matin, Verlaine télégraphié. Volontaire Espagne, viens ici, hôtel Liégeois. Blanchisseuse, manuscrit, si possible. Arthur ne s'était pas trompé. Mathilde, que Paul croyait voir accourir à Bruxelles, n'était pas venue. Seule la mère du poète, affolée à l'idée que Paul avait besoin de sa présence, avait fait le voyage.
Le cinquième volet de cette série d'émissions diffusée pour la première fois en avril 1951.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carcot de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Moran, Jean Topard, Raymond, Hubert Prélier, Claude Romain et Lucien Paris prêtent leur concours à cette cinquième émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
Et Mathilde qui ne venait pas, qui ne répondait pas. On était le samedi 5 juillet. Paul lui avait donné jusqu'au 7 pour le rejoindre à Bruxelles, sinon...
Sinon je me brûle la gueule.
Elle ne viendra pas. Quand t'as claqué, je te connais.
Bien que sans patrie et sans roi, et très brave ne l'étant guère, j'ai voulu mourir à la guerre. La mort n'a pas voulu de moi.
Tu vas, en attendant ta femme et ta mort, te démener, errer, ennuyer les gens.
Tu mens, c'est pas vrai, tu mens.
Sa mère, qui l'avait installé à l'hôtel liégeois, essayait de le calmer.
Non, non, si je ne suis pas d'ici 3 jours avec ma femme...
Oh, mais n'y songe pas, c'est une pécore. Et puis tu lui en as trop fait.
Oh, je t'en supplie, maman, ne lui donne pas toujours raison.
Mais je dis ce qui est.
Tu vois, tu la soutiens.
Paul. Paul, où vas-tu?
Quoi?
Un ami rencontré par hasard dans la rue lui avait affirmé que la Légation d'Espagne acceptait des volontaires pour combattre l'insurrection carliste. Et bien que ne prétendant à ses paroles qu'une oreille distraite, Verlaine avait classé le renseignement. S'il n'achetait pas de revolver, il pouvait toujours se rendre à la Légation et s'informer des formalités que l'on exigeait pour un engagement. Cette idée lui plaisait, à condition, bien entendu, qu'elle demeurât à l'état de projet... d'excuses. Lundi, le délai fixé à Mathilde est expiré. Ce délai comportait pour Paul l'obligation de se loger une balle dans la tête, et il se voyait dans les glaces d'Adventure, l'œil sombre, la figure blême, décomposée, ne sachant quelle décision choisir. Se tuer pour Mathilde, franchement, elle ne le méritait pas. Et ce ne serait d'ailleurs pas sa mère, à lui, qui lui reprocherait d'avoir failli à son serment. Restait Rimbaud. Paul relisait sa lettre. Claqué pour qui ? Pourquoi ? Se dit-il à voix haute. Mieux valait alerter Arthur. Avisant tout à coup l'entrée d'un bureau de poste, Verlaine en pousse le battant, s'empare d'une formule télégraphique et, négligeant toutes sortes de préambules, il rédige ce texte. Volontaire Espagne, viens ici, hôtel Liégeois. La dépêche partit pour Londres le mardi matin 8 juillet à 8h30 du matin. Le soir même, Rimbaud était là.
Par instant, je suis le pauvre navire qui court dématé parmi la tempête et ne voyant pas Notre-Dame luire pour l'engouffrement en priant s'apprête. Par instant, je meurs la mort du pécheur qui se sait damné s'il n'est confessé et perdant l'espoir de nul confesseur, se tord dans l'enfer qu'il a devancé. Oh, mais par instant, j'ai l'extase rouge du premier chrétien sous la dent rapace qui rit à Jésus témoin sans que bouge un poil de sa chair, un nerf de sa face.
Cependant, loin de l'apaiser, la présence d'Arthur augmenta la nervosité de Paul. Ils avaient eu une discussion.
Si t'as des projets, moi aussi j'ai les miens. Ils n'ont d'ailleurs rien de secret. Paris.
Comment Paris ?
Mais bien sûr.
Je ne veux pas que tu ailles à Paris. Retournons plutôt à Londres, ainsi que tu me l'as proposé dans ta lettre.
Non.
Mathilde, Paul n'y pensait plus. Néanmoins, il changea d'hôtel par précaution et loua deux chambres rue des Brasseurs, à la ville de Courtrai. La première destinée à sa mère, la seconde pour Arthur et pour lui. Ces deux chambres communiquaient, afin de prouver à Mathilde, si par hasard elle survenait, que leur liaison n'offrait rien de suspect. Ils se couchèrent. Rimbaud, trouvant sa farce, avait parfois son fameux rire à la muette qui excitait si fort le vieux. Mais le vieux pouvait insister, l'autre ne démordait pas de son projet. D'abord, Paul avait cru que c'était par rancune qu'Arthur s'entêtait de la sorte à vouloir se rendre à Paris, puis il s'était mis en colère.
Et que veux-tu donc foutre à Paris, nom de Dieu, cet idiot ? Quelqu'un t'attend ?
Peut-être.
Qui ?
Fous-moi la paix, je suis fatigué, j'ai sommeil.
Pas avant que tu m'aies dit le nom de celui que tu as l'intention de rejoindre.
Oh.
Allez, Rimbaud, ne dors pas, réponds.
De sa chambre, la mère de Verlaine crut entendre plusieurs fois Rimbaud et son fils se quereller. Leur chambre était obscure. Mais non, non, je ne veux pas. Paul insistait. La candide créature ne discernait point exactement le sens de leur dialogue, et pourtant à plusieurs reprises, il lui sembla que Paul pleurait, et qu'Arthur se moquait de lui, ou même, à un certain moment, qu'il le frappait. Subitement, le couple cessa de se chamailler. Par la fenêtre ouverte sur la rue, le léger courant d'air qui circulait d'une pièce à l'autre ne dispensait aucune fraîcheur.
Oh, quelle idée d'avoir fait venir ce garçon ici. Oh, Paul a dû certainement payer le voyage. Oh, il est trop bête.
Un grand sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez tout espoir, dormez toute envie. Je ne vois plus rien, je perds la mémoire du mal et du bien. Oh, la triste histoire! Je suis un berceau qu'une main balance au creux d'un caveau. Silence, silence.
Le matin du 10 aux premières heures, Une voiture traînée par des chiens s'arrêta devant le perron de l'hôtel, conduite par un vieux qui livrait les journaux. Verlaine se réveilla, fit sans bruit sa toilette et sortit de la chambre où Rimbe dormait à poings fermés. Sur la grande place, Paul absorba rapidement un bol de café noir à l'antique maison des brasseurs et tandis que les garçons répandaient de la sueur de bois sous les tables, il s'empressa de disparaître. La détermination qu'il venait de prendre l'emplissait d'une étrange, d'une absurde dignité. Oui, il ferait l'achat d'un revolver, mais il avait d'abord besoin de marcher, de se détendre. Traversant la grande place, où les marchandes de fleurs édifiaient en plein air leurs étalages de planches et de toiles, il gagna l'hôtel liégeois dont il avait indiqué l'adresse à Mathilde et s'assura chez le concierge que personne n'était venu le demander.
Et dites-moi, pas de lettre ?
Non, monsieur, rien.
Parfait.
Il avait écrit autrefois ces vers pour elle. L'ombre des arbres dans la rivière embrumée meurt comme de la fumée, tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, se plaignent les tourterelles. Combien, ô voyageur, ce paysage blême te mira blême toi-même, et que triste pleurer dans les hautes feuillées, tes espérances noyées. On avait arrosé la chaussée, les trottoirs, une fraîcheur agréable régnait encore dans les petites rues. Une première absinthe ingurgitée debout sur le zinc d'un comptoir précisa ses intentions. Une rue descendait en obliquant à gauche, comme à dessein d'inviter gracieusement le poète à pénétrer plus bas, sous la voûte vitrée des galeries Saint-Hubert, où le soir de son arrivée à Bruxelles, Paul avait repéré la boutique d'un armurier. Soudain, en opérant cette courbe, il eut la sensation baroque de suivre une trajectoire dont il aurait été le vivant projectile, et s'en trouva réconforté. Désormais, cela ne dépendait plus de lui. Rien ne dépendait plus de lui. Mais il avait parlé d'un revolvita dans sa lettre à Rimbaud, et il fallait qu'il en achetât un. Combien ? 23 francs. Bigre. Ce n'était pas donné. Et le voilà, cette arme en poche. Et une nouvelle absinthe au creux de l'estomac, tout aussitôt devient facile. Paul contourne la grande place en suivant le bas des maisons pour éviter l'ardeur du soleil qui, là-haut, sur les toits de l'hôtel de ville, fait étinceler l'or des statues. Ce fragment d'un poème en prose d'Arthur lui revient en mémoire.
Sur les routes, par les nuits d'hiver, sans gîte, sans habit, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé. Faiblesse ou force, te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas, entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu.
C'est toi, Paul ? D'où viens-tu ?
J'avais une course à faire.
Et tu as bu, déjà.
Il le faut. Ah ! Comme il dort, celui-là.
Oh, laisse-le dormir, se reposer. Pendant ce temps, au moins, vous ne vous disputerez pas.
Non. Arthur, réveille-toi. Allez, habille-toi, c'est l'heure. T'as pas soif ?
Soif, bien sûr.
Ah.
Oh, mais cesse donc de tourner ainsi dans cette chambre. Passe-moi plutôt mon grimpant. La chemise.
Tiens.
Merci.
Eh bien, et ce voyage ? Paris. Ça tient toujours ?
Toujours.
Bravo.
Ce matin, nous jouons les sphinx. Nous nous exprimons par énigmes. Eh ben, moi, je réponds merde aux sphinx, merde à tous.
Naturellement.
Ronne pas, si tu te voyais, t'aurais peur. Quelle sale gueule tu peux avoir.
Allez, t'es prêt?
Allez, dépêche-toi, avance. Allez, avance.
Mais je te dis d'avancer, nom de Dieu! Et plus vite! Il faudra bien que tu m'obéisses aujourd'hui. Allez.
Qu'est-ce que ça est, sais-tu? Ces espèces d'énergumées?
Quand Verlaine et Rimbaud regagnèrent leur chambre au début de l'après-midi, ils se disputaient encore avec tant de fureur que la mère de Verlaine crut bon de fermer les fenêtres.
Oh, Paul, je t'en prie.
Non, laisse-nous, maman, ça vaudra mieux. Rentre chez toi.
Ta mère peut assister à notre conversation. D'ailleurs, j'ai personnellement un service à lui demander.
De quelle nature?
J'aurais besoin de 20 francs pour mon billet de chemin de fer.
Mais je le lui défends.
Pourquoi?
Une façon comme une autre de t'empêcher de partir.
M'empêcher, moi? Je m'en irai plutôt à Pince. Je connais la route.
Oh, c'est mal de me braver ainsi, je suis désespéré.
Mais t'es surtout plein comme une outre.
Ou bien, partons ensemble.
Pour Paris, si tu veux. Le train du soir est à 8h. Ça te permettra de relancer ta femme.
Ma femme, tu n'as pas honte.
Verlaine, après un moment d'hésitation, donne un tour de clé à la porte du palier et se laisse choir sur une chaise en exhibant son revolver. Rimbaud le regarde sans comprendre. Il s'informe soudain d'un air gouailleur. Que vas-tu faire avec ce pistolet? Mais, répond Verlaine, cessant de tutoyer Arthur, c'est pour moi, pour vous, pour tout le monde. Un premier coup part, qui blesse Rimbaud au poignet, et peu après, un second coup. On sait la suite. Paul et sa mère menèrent Arthur à l'hôpital Saint-Jean, où ils le firent panser. Et le soir, tous les trois se dirigèrent vers la gare du Midi, où Rimbaud devait prendre le train. Madame Verlaine lui avait remis les 20 francs qu'il avait demandés. Que se passa-t-il alors dans l'âme de Paul? Il devait revoir la chambre de la rue Monsieur le Prince à Paris, les bars de Londres, ainsi qu'il les a évoqués plus tard dans Jadis et Naguère.
Oh, vraiment, c'est triste. Oh, vraiment, ça finit trop mal. Il n'est pas permis d'être à ce point infortuné. Oh, vraiment, c'est trop la mort du naïf animal qui voit tout son sang couler sous son regard fané. Londres fume et crie. Oh, quelle ville de la Bible! Le gaz flambe et nage et les enseignes sont vermeilles et les maisons, dans leur ratatinement terrible, épouvantent comme un sénat de petites vieilles. Tout l'affreux passé saute, piaule, miaule et glapit dans le brouillard rose et jaune et sale des Soho, avec des Indeed et des All Right et des How. Non, vraiment, c'est trop un martyr sans espérance. Non, vraiment, cela finit trop mal. Vraiment, c'est triste. Oh, le feu du ciel sur cette ville de la Bible.
Rimbaud crut que Verlaine allait tirer sur lui une nouvelle fois et prit peur. Voici d'ailleurs sa déclaration au commissaire de police, 10 juillet 1873, vers 8h du soir.
Depuis un an, j'habite Londres avec le sieur Verlaine. Nous faisions des correspondances pour les journaux et donnions des leçons de français. Sa société était devenue impossible et j'avais manifesté le désir de retourner à Paris. Il y a 4 jours, il m'a quitté pour venir à Bruxelles et m'a envoyé un télégramme pour venir le rejoindre. Je suis arrivé depuis 2 jours et suis allé me loger avec lui et sa mère, rue des Brasseurs, numéro 1. Je manifestais toujours le désir de retourner à Paris. Il me répondait « Oui, pars et tu verras !» Ce matin, il est allé acheter un revolver au passage des Galeries Saint-Hubert et me l'a montré à son retour vers midi. Nous sommes allés ensuite à la maison des Brasseurs, Grand Place, où nous avons continué à causer de mon départ. Rentré au logement vers 2 heures, il a fermé la porte à clé, s'est assis devant, puis armant son revolver, il en a tiré 2 coups en disant « Tiens, je t'apprendrai à vouloir partir !» Ces 2 coups de feu ont été tirés à 3 mètres de distance. Le premier m'a blessé au poignet gauche, le second ne m'a pas atteint. Sa mère était présente et m'a apporté les premiers soins. Je me suis rendu ensuite à l'hôpital Saint-Jean, où l'on m'a pansé. J'étais accompagné de Verlaine et de sa mère. Le pansement fini, nous sommes revenus tous 3 à la maison. Verlaine me disait toujours de ne pas le quitter, de rester avec lui, mais je n'ai pas voulu consentir, et je suis parti vers 7 heures du soir, accompagné de Verlaine et de sa mère. Arrivé aux environs de la place Roupe, Verlaine m'a devancé de quelques pas, puis il est revenu vers moi. Je l'ai vu mettre sa main en poche pour saisir son revolver. J'ai fait 2 demi-tours et suis revenu sur mes pas. J'ai rencontré l'agent à qui j'ai fait part de ce qui m'était arrivé et qui a invité Verlaine à le suivre au bureau de police. Si ce dernier m'avait laissé partir librement, je n'aurais pas porté plainte à sa charge pour la blessure qu'il m'a faite.
Le 11 juillet, le juge d'instruction a interrogé Verlaine.
N'avez-vous jamais été condamné ?
Non. Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé dans la journée d'hier. J'avais écrit à ma femme qui habite Paris de venir me rejoindre. Elle ne m'a pas répondu. D'autre part, un ami auquel je tiens beaucoup était venu me rejoindre à Bruxelles depuis 2 jours et voulait me quitter pour retourner en France. Alors tout cela m'a jeté dans le désespoir. J'ai acheté un revolver dans l'intention de me tuer. En rentrant à mon logement, j'ai eu une discussion avec cet ami. Malgré mes instances, il voulait me quitter. Et dans mon délire, je lui ai tiré un coup de revolver qu'il a atteint à la main. J'ai alors laissé tomber le revolver. Et le second coup est parti accidentellement. J'ai eu immédiatement le plus vif remords de ce que j'avais fait. Ma mère et moi, nous avons conduit Rimbaud à l'hôpital pour le faire panser. La blessure était sans importance. Malgré mon insistance, il a persisté dans sa résolution de retourner en France. Et au soir, nous l'avons conduit à la gare du Midi. Chemin faisant, je renouvelais mes instances. Je me suis même placé devant lui comme pour l'empêcher de continuer sa route et je l'ai menacé de me brûler la cervelle. Il a compris peut-être que je le menaçais lui-même, mais ce n'était pas mon intention.
Quel est le motif de votre présence à Bruxelles ?
J'espérais que ma femme serait venue m'y rejoindre comme elle était déjà venue précédemment.
Je ne comprends pas que le départ d'un ami ait pu vous jeter dans le désespoir. N'existe-t-il pas, entre vous et Rimbaud, d'autres relations que celles de l'amitié ?
Mais non, c'est une calomnie qui a été inventée par ma femme et sa famille pour me nuire. On m'accuse de cela dans la requête présentée au tribunal par ma femme à l'appui de sa demande en séparation.
Le malheur pour Verlaine est qu'on avait découvert sur Rimbaud certains sonnets qui ne laissaient aucun doute sur les relations que Paul entretenait avec lui. « Je suis élu, je suis damné. Un grand souffle inconnu m'entoure. Ô terreur, parsée, dominée. Quel ange dur ainsi me bourre entre les épaules tandis que je m'envole au paradis. Fièvre adorablement maligne. Bon délire, Benoît et froid. Je suis martyr et je suis roi. Faucon, je plane et je meurs. Signe. Toi, le jaloux qui m'a fait signe, tout me voici, voici tout, moi. Vers toi, je rampe encore indigne. Monte sur mes reins et trépigne.
tout de suite le sixième volet de cette série d'émissions diffusée pour la première fois en avril 1951.
La radiodiffusion française présente Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, par Francis Carco de l'Académie Goncourt. Musique de Henri Barrault, orchestre sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Jacqueline Morane et Jean Topard prêtent leur concours à cette sixième émission. Présentation de l'auteur, réalisation d'Albert Riera.
Que les égarements, les tares, les ignominies et les flétrissures de Verlaine ne nous fassent point oublier son génie. Il en a payé le prix. En effet, après un second interrogatoire, et malgré l'acte de renonciation de Rimbaud à toute poursuite judiciaire, pauvre Lélian se vit condamné à 2 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles. On les croit le 27 août à Mons, où, dit-il, j'ai longtemps habité le meilleur des châteaux, dans le plus fin pays d'eau vive et de coteaux. 4 tours s'élevaient sur le front d'autant d'ailes, et j'ai longtemps, longtemps habité l'une d'elles. Arthur s'était réfugié à Roche dans sa famille. C'est là qu'il écrivit au cours d'une crise de larmes mêlée de cris, d'imprécations, à quoi sa sœur Isabelle fait allusion dans son journal, une saison en enfer. Jamais encore il n'avait ressenti pareille détresse. La motère, si rigide sur les principes qu'elle s'était efforcée en vain de lui inculquer, l'accueillit contrairement à ce que le jeune garçon était en droit de craindre, avec une dignité, une compassion parfaite. Pensez aux proportions qu'avait pris le scandale dans le pays. Il est permis d'imaginer la lutte qui se livrait dans l'âme de Vitali et quelles rougeurs subites lui ont pourpré le visage quand son regard parfois rencontrait celui du malheureux. Qu'aurait-elle compris à sa forfanterie ?
J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. D'eux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Ah, tous les vices. Colère, luxure. Magnifique la luxure. Surtout mensonge et paresse. J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle à main. Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intact. Et ça m'est égal.
Déjà, Rimbaud se remettait. Un sentiment nouveau se faisait jour dans sa conscience et lui inspirait par la suite ce poème surprenant.
Tant que la lame n'aura pas coupé cette cervelle, ce paquet blanc, vert et gras, à vapeur jamais nouvelle. Ah, lui devrait couper son nez, sa lèvre, ses oreilles, son ventre, et faire abandon de ses jambes, ô merveille. Mais non, vrai, je crois que tant que pour sa tête la lame, que les cailloux pour son flanc, que pour ses boyaux la flamme n'auront pas agi, l'enfant gêneur, la sissotte bête, ne doit cesser un instant de ruser et d'être traître comme un chat démon rocheux, d'empuantir toute sphère. Qu'à sa mort pourtant, mon Dieu, s'élève quelques prières.
Il avait dit dans son accablant désarroi, la vie dure, l'abrutissement simple, soulever le poids desséché, le couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ah, je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Des profondeurs dominées, suis-je bête? Pendant ce temps, Verlaine, dans sa cellule de Mons, apprenait que sa femme avait obtenu le divorce et le choc qu'il en ressentit décidait de sa conversion. Quelle différence entre les deux hommes! Le premier, contre tout espoir, ne croyait pas que Mathilde le poursuivrait ainsi de sa haine. Et l'autre, sa crise passée, se préparait déjà à reprendre sa vie errante, mouvementée. C'est alors que le prisonnier composa ce chef-d'œuvre.
L'espoir lui comme un brin de paille dans l'étable. Que crains-tu de la guêpe ivre et de son vol fou? Vois, le soleil toujours poudroie quelques trous. Que ne t'endormais-tu le coude sur la table? Pauvre âme pâle, au moins cette eau du puits glacé, bois-la, puis dors après. Allons, tu vois, je reste, et je dorloterai les rêves de ta sieste. Et tu chantonneras comme un enfant bercé. Midi sonne. De grâce, éloignez-vous, madame. Il dort. C'est étonnant comme les pas de femme résonnent au cerveau des pauvres malheureux. Midi sonne. J'ai fait arroser dans la chambre. Va, dors. L'espoir luit comme un caillou dans un creux. Oh! Quand refleuriront les roses de septembre?
Une saison en enfer met le point final au cycle de l'évolution littéraire de Rimbaud. Désormais, constate M. Jules Mouquet, dans la précieuse édition de la Pléiade, il n'écrira plus rien. Et le contraste est d'autant plus frappant entre Verlaine et lui, qu'à dater du moment où Rimbaud renonce à la littérature, Verlaine mûrit par ses malheurs, devient le grand, le merveilleux poète qu'il n'aurait point été peut-être sans Rimbaud. Celui-ci n'a que 19 ans. Mû par une sorte de pressentiment qui tient de la voyance, il s'écrie « Me voici sur la plage armoricaine. Que les villes s'allument dans le soir, ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons. Les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout. Boire ces liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient les chers ancêtres autour des feux. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or. Je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes. Retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques, sauvé. Maintenant, je suis maudit. J'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. Maudit, il devait l'être encore pendant de longues années, et Verlaine également. Mais l'auteur de sagesse trouvait un prétexte à l'étalage de ses répugnantes turpitudes. Rappelez-vous l'espèce d'atterrement qu'éprouva Marcel Schwob en présence du poète dont il avait fait son idole. Un matin, conte-t-il, je suis allé chez Verlaine dans une auberge borgne. Inutile de vous la décrire. Je pousse la porte. Verlaine était couché. On voyait des mèches de cheveux, de barbe et un peu de peau de son visage, de la cire d'un vilain jaune gâté. Vous êtes malade, maître ?
Ou.
Vous êtes rentré tard, maître ?
Ou.
Sa figure s'était retournée. J'ai vu toute la boule de cire dont un morceau enduit de boue, la mâchoire inférieure menaçait de se détacher. Mais il ajoute avec une innocence juvénile que pauvre Lélian sut toujours exploiter. Sur la table de nuit, il y avait un livre. C'était un Racine. Rimbaud avait plus de cynisme et de grandeur. Il n'a jamais rien mendié. À 16 ans, il tournait ses strophes sacrilèges.
Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ou verts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu, tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant, pauvres morts dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement, il est un dieu qui rit aux nappes damassées des autels, à l'encens, au grand calice d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort, et se réveille quand des mères ramassées dans l'angoisse et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir.
Il n'avait point pourtant que le blasphème aux lèvres. Par exemple, les réparties de Nina, si fraîches, si spontanées, datent, elles aussi, de sa 16e année.
Lui. Ta poitrine sur ma poitrine. Hein? Nous irions ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons du bon matin bleu qui vous baigne du vin du jour. Quand tout le bois frissonnant saigne, muet d'amour. Ta poitrine sur ma poitrine, mêlant nos voix, lent, nous gagnerions la ravine, puis les grands bois. Puis, comme une petite morte, le cœur pâmé, tu me dirais que je te porte, l'œil mi-fermé. Je te parlerai dans ta bouche, j'irai pressant ton corps comme une enfant qu'on couche, ivre du sang qui coule bleu sous ta peau blanche au ton rosé.
et te parlant la langue franche. Tiens, que tu sais. Nous regagnerons le village au ciel minoir, et ça sentira le laitage dans l'air du soir. Ça sentira l'étable pleine de fumier chaud, plein d'un lent rythme d'haleine et de grands dos blanchissant sous quelque lumière. Et tout là-bas, une vache fientera, fière à chaque pas. Les lunettes de la grand-mère et son nez long dans son missel, le pot de bière cerclé de plomb, moussant entre les larges pipes qui crânement fument, les effroyables lippes qui, tout fumant, happent le jambon aux fourchettes, tant, tant et plus, le feu qui claire les couchettes et les bahuts. Que de choses verrons-nous, chers, dans cet audit, quand la flamme illumine clair les carreaux gris. Puis, petite et toute nichée, dans les lilas, noirs et frais, la vitre cachée qui rit là-bas, tu viendras, je t'aime. Ce sera beau, tu viendras, n'est-ce pas? Et même, elle, et mon bureau.
Le ton de cette bergerie n'offre rien de commun avec celui des fêtes galantes. Rythme, image, la frappe même du verre. Verlaine ne les aurait probablement pas eus. Il possédait plus le charme, plus de grâce. Mais il manquait peut-être d'accent, de fermeté. Et Rimbaud l'a très bien décrit par transposition sous les traits de la Vierge folle d'une saison en enfer. Je suis esclave de l'épouse infernale. C'est bien ce démon-là. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, on ne me tuera pas? Comment vous le décrire? Il dit, je n'aime pas les femmes, l'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage aujourd'hui. Et il insiste. Quand il me semblait avoir l'esprit inerte, je le suivais, moi, dans les actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises. J'étais sûr de ne jamais entrer dans son monde. À côté de son cher corps, que d'heures de nuit j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Un abîme les sépare. Que devenir? Il n'a pas une connaissance, il ne travaillera jamais, il veut vivre somnambule. Rimbaud se connaissait mieux que quiconque, seulement le somnambule s'est soudain réveillé et le poète du bateau ivre a cessé en même temps d'écrire. De 1870 à 1874, l'œuvre qu'il a produite compte parmi les plus importantes du lyrisme français. 4 années pour une pareille œuvre. Seul Van Gogh pourrait lui être comparé. Même fulguration, même illumination. Quel est ce cas? Confine-t-il à la folie? Rimbaud n'est pas fou. Après sa dramatique rupture avec Verlaine, il revient à Paris, rencontre Germain Nouveau, qui, sous le pseudonyme de Humilis, a laissé le souvenir d'un éternel vagabondage. Il retourne à Londres en compagnie de ce poète, évitant bien que mal, plutôt mal, du peu d'argent que lui procure des leçons de français. Son intention était d'apprendre la langue anglaise, afin de pouvoir entreprendre un jour les grands voyages que depuis son enfance il rêvait d'accomplir. De Londres, il se rend à Stuttgart, dans la même et louable intention de se perfectionner en allemand, avant de courir par le monde sa chance. Une lettre qu'il adresse à sa mère le 17 mars 1875 nous fournit la preuve de sa totale transformation. J'ai là une grande chambre, fort bien meublée, au centre de la ville, pour 10 florins, c'est-à-dire 21 francs 50, le service compris, et on m'offre la pension pour 60 francs par mois. Je n'en ai pas besoin d'ailleurs. C'est toujours tricherie et assujettissement ces petites combinaisons, quelque économiques qu'elles paraissent. Je m'avais donc tâché d'aller jusqu'au 15 avril, avec ce qui me reste, encore 50 francs, parce que j'aurai encore besoin d'avance à cette date-là. J'espère que tu trouves cela modéré et raisonnable. Je tâche de m'infiltrer les manières d'ici par tous les moyens possibles. Je tâche de me renseigner, quoiqu'on ait réellement à souffrir de leur genre. Il n'oublie pas son père. Je salue l'armée, écrit-il, avant de prier les siens de l'avertir s'il en désire quelque chose d'ici, et signe votre dévoué. Quel bon fils il est devenu. Mais Verlaine, qu'on tient au courant des projets d'Arthur, lui dépêche de sa prison sévère.
Malheureux, tous les dons, la gloire du baptême, ton enfance chrétienne, une mère qui t'aime, la force et la santé comme le pain et l'eau, cet avenir enfin décrit dans le tableau de ce passé plus clair que le jeu des marées, tu pilles tout. Tu perds en ville simagrée jusqu'au dernier pouvoir de ton esprit, hélas. La malédiction de n'être jamais là suit tes pas sur le monde où l'horizon t'attire.
Verlaine se doute en effet du caractère suspect des rapports qui lient Arthur à son nouvel ami. Mais Rimbaud le laisse geindre. Ses projets prennent corps. À Stuttgart, il trouve un emploi de précepteur dans une famille. C'est là pour lui l'essentiel. L'autre, le vieux, dans sa cellule, peut se morfondre, s'attendrir ou grimer pour le mettre en garde contre la tentation, ce poème admirable.
Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte, un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse?
Il radote, aurait dit Rimbaud, s'il lui avait été donné de lire ces strophes. Mais Verlaine suivait son idée. Malgré sa conversion, ou plutôt en raison de sa conversion, il se proposait de catéchiser Rimbaud et de le ramener à Dieu. Les jours passés, puisqu'il devait, de par la loi, renoncer à Mathilde, Paul se disait qu'Arthur ne le repousserait pas. Il avait eu à Mons tout le temps, comme il dit, d'y penser et d'y repenser. Et peut-être était-il sincère dans l'exécution de ses plans. Le 16 janvier 1875, il sort de prison, se retire durant une quinzaine chez son oncle à Fampoux, puis, avant d'entreprendre Arthur, se prépare à cette tâche par une retraite de quelques jours à la trappe de Chimay. Mathilde, qu'il était allé voir à Paris, l'avait nettement éconduit. Verlaine quitte la trappe, prend le train pour Stuttgart et se rend chez Arthur. Comment l'aborda-t-il? Un billet de Rimbaud à Ernest Delahaye relate l'échec navrant du vieux. Stuttgart, 5 mars 1975. Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un chapelet aux pinces. 3 heures après, on avait renié son Dieu et fait saigner les 98 plaies de notre Seigneur. Il est resté 2 jours et demi, fort raisonnable, et sur ma remontrance, s'en est retourné à Paris pour de suite aller finir d'étudier là-bas, dans l'île. La vérité était tout autre. Après avoir déjeuné avec Arthur, Paul, un peu bu peut-être et troublé par la présence du jeune garçon, avait presque oublié l'objet de sa démarche pour essayer non pas de le gagner à Dieu, mais à ses plus chaudes convoitises. Arthur l'envoya paître d'abord, puis le roi de coups, le laissant quasi mort sur une berge d'une écart où on le ramassa le lendemain matin. On imagine la bataille entre les deux hommes. Elle marque cette fois la fin de l'aventure. Verlaine rentre à Paris, puis il se rend là-bas, dans l'île, à Londres, moins pour étudier, comme le croit Arthur, que pour revivre par le souvenir l'existence qu'ils y avaient tous deux menée. 9 mois plus tard, Rimbaud recevait cette réponse à une demande de fonds dont il avait besoin pour apprendre, on ne sait trop pourquoi, le piano. Quant à la question d'argent, tu ne peux pas sérieusement ne pas reconnaître que je suis l'homme généreux en personne, mais étant donné et d'abord mon besoin de réparer un tant soit peu, à force de petites économies, les brèches énormes faites à mon menu avoir par notre vie absurde et honteuse d'il y a 3 ans, et la pensée de mon fils, et enfin mes nouvelles, mes fermes idées, tu dois comprendre que je ne puis t'entretenir. Où irait mon argent? À des filles? À des cabaretiers? Leçon de piano? Quel col! Est-ce que ta mère ne consentirait pas à t'en payer? Voyons donc. Cette lettre est accablante pour Verlaine aussi bien que pour Rimbaud. En effet, tu m'as écrit en avril, ajoute pauvre Lélian, des lettres trop significatives de villes, de méchants desseins, pour que je me risque à te donner mon adresse. Bien qu'au fond, toute tentative de me nuire soit ridicule et d'avance impuissante, et qu'en outre, il y serait, je t'en préviens, répliqué légalement pièces en main. Dommage que Verlaine, avant de céder à ses rancunes, ne se soit point rappelé ce sonnet qu'Arthur avait écrit jadis sur le châtiment de Tartuffe. Il lui eût évité de se montrer sous un jour aussi défavorable.
Tisonnant son cœur amoureux sous sa chaste robe noire, heureux, la main gantée, un jour qu'il s'en allait effroyablement doux, jaune, bavant la foi de sa bouche édentée, un jour qu'il s'en allait Orémus, un méchant le prit rudement par son oreille benoîte et lui jeta des mots affreux en arrachant sa chaste robe noire autour de sa peau moite. Châtiment. Ses habits étaient déboutonnés, et le long chapelet des péchés pardonnés, s'égrenant dans son cœur, Saint Tartuffe était pâle. Donc il se confessait, priait avec un râle. L'homme se contenta d'emporter ses rabats. Peu. Tartuffe était nu, du haut jusque en bas.
C'était Jean-Arthur Rimbaud, poète maudit, 4e, 5e et 6e volet d'une série de 8 émissions proposées par Francis Carco, réalisée par Albert Riera et diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 29 mars, les 5 et 12 avril 1951.